Le journal avec Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Amélie, bonjour à tous. À la une de l'actualité, crise à l'Élysée, paralysie à l'Assemblée nationale. Au cœur de ce séisme, l'affaire Benalla, du nom de ce chargé de mission collaborateur d'Emmanuel Macron, auteur de violences lors des manifestations du 1er mai. Alexandre Benalla, placé en garde à vue hier, visé par une procédure de licenciement et qui pourrait entraîner dans sa chute trois policiers aujourd'hui interrogés. Dans l'actualité de ce samedi également, l'ouverture du G20 Finance en Argentine. Un rendez-vous, il va être beaucoup question de la politique commerciale de Donald Trump. Nouveau chassé-croisé des vacanciers de juillet sur les routes de France, vous venez de l'entendre. Un samedi classé rouge par bison futé dans le sens des départs, orange pour les retours. Enfin, côté sport, une discipline en chasse une autre. Après le mondial de football, retour sur le Tour de France cycliste et son maillot jaune, le gallois Geraint Thomas pour la 14e étape et sa Côte de la Croix-Neuve près de Mende. Rendez-vous dans le journal des sports présenté par Laetitia Bernard.
France Inter.
C'est donc une crise sans précédent que traverse actuellement l'Élysée. Au cœur de cette tourmente, l'affaire Benalla, du nom de ce collaborateur d'Emmanuel Macron, chargé de sa sécurité, filmé le 1er mai dernier, en train de frapper au sol un manifestant. L'Élysée a donc annoncé hier avoir engagé une procédure de licenciement à l'égard d'Alexandre Benalla, qui a par ailleurs été placé en garde à vue, tout comme son ancien associé Vincent Crasse, autre collaborateur du palais de l'Élysée. Ce matin, selon une information que vous révèle France Inter, ce sont trois hommes, trois policiers gradés qui vont être entendus dans les locaux de l'IGPN, la police des polices, en lien avec cette affaire. Trois fonctionnaires à qui l'on reproche d'avoir fourni à Alexandre Benalla des images de la même scène du 1er mai, place de la Contrescarpe à Paris, censée lui permettre de préparer sa défense. Trois policiers suspendus et qui, de fait, se retrouvent impliqués dans ce scandale, Sophie Parmentier.
Le premier convoqué ce matin dans les locaux de la police des polices est un jeune commissaire qui était en charge du maintien de l'ordre, place de la Contrescarpe, où Alexandre Benalla a violenté deux jeunes manifestants parisiens sans être aucunement habilité à les interpeller. Ce commissaire, Maxence Creusat, était à quelques mètres du collaborateur de l'Élysée au moment des violences commises, mais il n'aurait rien vu car occupé à ce moment-là avec les CRS qu'il commandait. Le deuxième policier qui sera entendu par l'IGPN est le commandant Huneau de la préfecture de police de Paris. Le troisième, Laurent Simonin, est contrôleur général. Ces trois gradés ont été suspendus par le ministre de l'Intérieur pour avoir indûment transmis cette semaine à Alexandre Benalla des images de vidéosurveillance du 1er mai. Mais ces trois gradés sont-ils seuls responsables de cette transmission? Demandent plusieurs syndicalistes policiers qui s'inquiètent que l'on désigne des lampistes dans cette affaire qui touche le sommet de l'État. Dans les locaux de l'IGPN, ce matin, les trois policiers suspendus pourraient être placés sous le régime de la garde à vue et confrontés à Alexandre Benalla.
Une affaire qui s'est par ailleurs émissée dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, paralysant le projet de réforme constitutionnelle actuellement discuté. Les députés de l'opposition de tous bords réclament la venue du Premier ministre Édouard Philippe. Une Assemblée nationale paralysée et divisée, comme a pu le constater Victoire Fort.
Entre ces quatre colonnes, l'unanimité est rare. Pourtant, après une réunion à huis clos, les responsables des groupes de l'opposition se sont montrés unis. Sébastien Jumel, du Parti communiste français.
Ce qui me rassure, c'est que l'opposition joue son rôle de veille sur les fondamentaux de la République. On ne joue pas à celui qui aura les plus gros bras dans cette affaire. On voit bien que le plus gros bras, ils étaient à l'Élysée, aux côtés du prince. Donc on ne joue pas dans cette cour-là. Mais nous sommes d'accord pour dire qu'il y a crise institutionnelle.
Ensemble, ils ont décidé de bloquer et de brandir l'article 49 de la Constitution. La socialiste Valérie Rabault.
La Constitution est très claire. Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Donc là-dessus, on estime qu'il y a une situation de crise et que par conséquent, le Premier ministre doit venir s'exprimer. Ce qui ne s'est jamais vu, c'est un tel blocage.
Du côté d'En Marche, les députés, eux, répètent un chiffre, 3, le nombre d'enquêtes en cours. Alors si les débats sont mis entre parenthèses, c'est par obstruction, insiste Sacha Houlier.
Il y a l'opposition qui étudie un texte dont il ne veut pas. Ils ont trouvé un argument supplémentaire qu'ils utilisent jusqu'à la corde. C'est ça la vérité. Ils veulent pas d'une réduction du nombre parlementaire, ils veulent pas de la proportionnelle, mais c'est ça les vraies raisons aujourd'hui du blocage à l'Assemblée nationale.
Dans ce bras de fer, c'est au premier qui cédera. Mais quand ?
Nous avons les ressources pour continuer jusqu'à dimanche.
Le week-end s'annonce électrique.
Gérard Collomb ira s'expliquer mardi devant le Sénat. Le bureau de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, lui, ne s'est pas encore mis d'accord sur la date d'une audition du ministre de l'Intérieur. Emmanuel Macron, pour sa part, ne s'est pas encore exprimé sur cette affaire.
Et l'affaire Benalla, on y revient avec l'invité de notre grand entretien à 8h20. C'est Gilles Legendre, le député de La République En Marche de Paris. 8h05 sur France Inter, la suite de votre journal, Serge Martin. Et c'est ce samedi que va débuter en Argentine le G20 Finance.
Un rendez-vous auquel sont conviés les ministres de l'économie et des finances des pays les plus riches de la planète. Une rencontre à Buenos Aires tout ce week-end où il va forcément être question de la guerre commerciale lancée par Donald Trump au reste du monde. Washington, Marco Walter.
S'il n'y a qu'un patron à la Maison-Blanche, le président Trump, ce week-end au G20 Finance, c'est Steven Mnuchin, le secrétaire américain au Trésor qui s'y colle. Il devrait notamment dénoncer une agression économique de la Chine. Dans l'actuel bras de fer sur les droits de douane, Donald Trump se dit prêt à taxer plus fortement l'ensemble des produits en provenance de Chine. Et Washington estime que Pékin ne propose actuellement aucune solution pour une désescalade. Steven Mnuchin doit également s'entretenir avec les représentants de la France et de l'Allemagne. Après l'acier et l'aluminium, Washington menace d'imposer de nouveaux droits de douane sur les voitures produites dans l'Union européenne. Et depuis hier, au même titre que la Chine, l'Europe se retrouve accusée de manipuler la valeur de sa devise, l'euro, au détriment de la compétitivité américaine. Ce G20 devrait donc aussi permettre de préparer la visite la semaine prochaine à Washington de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, qui va rencontrer Donald Trump pour tenter de désamorcer le conflit commercial. À New York, Marco Walter pour France Inter.
Dans l'actualité à l'étranger, encore en bref, ce nouvel accord de cessez-le-feu ce matin entre Israël et le Hamas, un accord qui intervient au lendemain de bombardements massifs de l'armée israélienne sur la bande de Gaza, des heurts qui ont coûté la vie à 4 Palestiniens et à un soldat israélien.
Retour en France et encore beaucoup de monde aujourd'hui sur les routes de l'Hexagone pour un nouveau chassé-croisé des vacanciers de juillet, Serge.
Oui, cette journée de samedi est en effet classée rouge dans le sens des départs par bison futé et orange dans le sens des retours. Le goudron va donc encore chauffé sous le soleil et le poids des pneumatiques, mais pas partout. Chargés de la construction ou de la réparation des routes, les entreprises de travaux publics tirent en effet la sonnette d'alarme. Elles dénoncent une pénurie de bitume liée à des difficultés d'approvisionnement depuis le mois de juin. Les raisons de ce manque avec Mariam El-Kurdi.
Traditionnellement, la période de mai à septembre est synonyme de pic d'activité pour les professionnels de la construction. Mais en ce moment, de nombreux chantiers sont à l'arrêt. À cause de ce problème d'approvisionnement en bitume, ça dure depuis plusieurs semaines. Trop pour Jean-Christophe Louvet, directeur général de Luc Durand, entreprise de travaux publics en Maine-et-Loire.
Quand on commande 5 camions de bitume, on a de la chance et on s'estime heureux si on en reçoit un. Et quelquefois, on n'en reçoit pas. Je n'ai pas été obligé d'arrêter totalement l'ensemble de nos centrales. On en a deux dans l'entreprise. Il y en a une qui est à l'arrêt, une centrale qui est à l'arrêt, c'est plusieurs milliers d'euros tous les jours de perdus et de pertes sèches.
La faute entre autres à une baisse de production dans les raffineries à cause de fermetures, de pannes ou de blocages lors des mouvements sociaux. Il y aurait aussi un déficit de 15 000 chauffeurs formés au transport de produits dangereux. Un problème aggravé par la grève à la SNCF qui a reporté le transport du fret sur les routes. Pour Jean-Christophe Louvet, c'est l'ensemble de la société qui est touchée.
Il manque 25 à 30% du bitume dont on a besoin actuellement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis en train de sélectionner les chantiers qu'on ne fera pas. Je ne pourrai pas faire toutes les cours d'école qui nous sont demandées aujourd'hui, par exemple.
Les acteurs concernés par cette crise doivent se réunir mardi au ministère des Transports pour trouver des solutions. En attendant, Route de France demande à l'État et aux collectivités d'annuler les pénalités normalement prévues lors des retards sur les chantiers.
Et puisque Mariam El-Kurdi vient de faire allusion à la grève de la SNCF, sachez que celle-ci aurait coûté 790 millions d'euros à la Société des chemins de fer, soit environ 21 millions d'euros par jour de grève.
Du théâtre pour refermer votre journal, Serge. Direction Avignon et 172e festival.
Un rendez-vous annuel que les amateurs de théâtre ne rateraient pour rien au monde et qui, cette année, accorde une large place au pays du Moyen-Orient. Et c'est ainsi que le metteur en scène égyptien Ahmed Al-Attar présente en ce moment Mama, pièce dans laquelle il met en valeur, non sans audace, la figure de la mère et son rôle dans la reproduction du système patriarcal. Stéphane Capron.
L'action de la pièce se déroule dans le salon d'une grande demeure bourgeoise au Caire. Dans un fauteuil trône la mama. Autour d'elle se joue une succession de petits drames domestiques entre un père obsédé par ses investissements financiers, son gendre attiré par le rêve américain, les filles et les femmes discutent de tout et surtout de rien. Ahmed El-Attar exprime l'enfermement de la femme dans le monde arabe.
Le changement du monde arabe viendra vraiment, ou le changement de la situation de la femme viendra des femmes. Parce que l'homme ne le changera pas. Il n'a aucun intérêt de changer. Il est en plein pouvoir. Personne en pouvoir le change. Alors, c'est les autres qui vont changer. Et comme elle a vraiment le pouvoir de changer, parce que c'est elle qui gère les enfants, en réalité aujourd'hui, c'est à elle de faire le changement.
Ahmed El-Attar utilise l'humour comme arme pour désamorcer les situations, sans nier les violences dont sont victimes les femmes de la part des hommes. Son propos n'est pas très optimiste. Il laisse entendre que les générations futures vont malheureusement reproduire les mêmes schémas et que la société égyptienne n'est pas prête de sortir de son patriarcat.
Mama au Festival d'Avignon jusqu'au 23 juillet, puis en tournée en France. C'est la fin de ce journal. Je vous laisse en compagnie d'Amélie Perrier.